cet endroit porte le nom de reliquaire d'Oban, en souvenir de ce compagnon de Saint Columban, auquel on doit l'édification de la chapelle dont les ruines s'élèvent au milieu de ce champ des morts. C'est un curieux emplacement, ce terrain semé de pierres funéraires, où dorment 48 rois écossais, 8 vice-rois des Hébrides, 4 vice-rois d'Irlande et un roi de France au nom perdu comme celui d'un chef des temps préhistoriques. Entouré de sa longue grille de fer, pavé de dalles juxtaposées, on dirait une sorte de champ de Karnak dont les pierres seraient des tombes et non des roches druidiques. Entre elles, couché sur la litière verte, s'allonge le granit du roi d'Écosse, ce Duncan illustré par la sombre tragédie de Macbeth. De ces pierres, les unes portent simplement des ornements d'un dessin géométrique, les autres, sculptées en rondes bosses, représentent quelques-uns de ces farouches rois celtiques, étendus là avec une rigidité de cadavre. Que de souvenirs errent au-dessus de cette nécropole d'Iona ? Quel recul l'imagination fait dans le passé en fouillant le sol de ce Saint-Denis des Hébrides ? Et comment oublier cette strophe d'Ossian qui semble avoir été inspirée en ces lieux mêmes ? Étranger, tu habites ici une terre couverte de héros. Chante quelquefois la gloire de ces morts célèbres, que leurs ombres légères viennent se réjouir autour de toi. Miss Campbell et ses compagnons regardaient en silence. Ils n'avaient point à subir l'ennui d'un guide assermenté déchirant, pour quelques touristes, les incertitudes d'une histoire si lointaine. Il leur semblait revoir ses descendants du Lord des Îles, Angus Hogg, le compagnon de Robert Bruce, les frères d'armes de ce héros qui lutta pour l'indépendance de son pays. « J'aimerais à revenir ici à la nuit tombante, » dit Miss Campbell. « Il me semble que l'heure serait plus favorable pour rappeler ses souvenirs. Je verrai apporter le corps du malheureux Duncan. J'entendrai les propos des ensevelisseurs le couchant dans la terre consacrée à ses ancêtres. » En vérité, Monsieur Sinclair, ne serait-ce pas l'instant propice pour évoquer ces lutins qui gardent le royal cimetière ?
Oui, Miss Campbell, et je pense qu'ils ne refuseraient pas d'apparaître à votre voix.
Comment, Miss Campbell ? Vous croyez aux lutins ? S'écria Aristobulus Ursiclo.
J'y crois, monsieur. J'y crois en vraie écossaise que je suis, répondit Miss Campbell.
Mais en réalité, vous savez bien que cela est imaginaire, que rien de tout ce fantastique n'existe.
« Et s'il me plaît d'y croire ?» répondit Miss Campbell, animée par cette inopportune contradiction. « S'il me plaît de croire aux brownies domestiques qui gardent le mobilier de la maison, aux sorcières dont les incantations s'opèrent en déclamant des vers runiques, aux valkyries, ces vierges fatales de la mythologie scandinave qui emportent les guerriers tombés dans la bataille, à ces fées familières chantées par notre poète Burns, dont ces vers immortels qu'un véritable fils des Highlands ne saurait oublier. » Cette nuit, les fées légères dansent sur Cassilis Downounds, ou se dirigent vers Golsins, à la pâle clarté de la lune, pour aller s'égarer dans les coves, au milieu des rochers et des ruisseaux.
Eh, Miss Campbell, reprit le sot entêté, pensez-vous donc que les poètes ajoutent foi à ces rêves de leur imagination ?
Très certainement, monsieur, répondit Olivier Sinclair. Ou bien leur poésie sonnerait faux, comme toute œuvre qui ne naît pas d'une conviction profonde.
Vous aussi, monsieur, répondit Aristobulus Ursiclo. Je vous savais peintre, je ne vous savais pas poète.
C'est la même chose, dit Miss Campbell. L'art n'est qu'un, sous des formes diverses.
Mais non, non, c'est inadmissible. Vous ne croyez pas à toutes ces mythologies des vieux bardes dont le cerveau troublé évoquait des divinités imaginaires. « Oh, monsieur Ursiclo !» s'écria le frère Sam, piqué au vif. « Ne traitez pas ainsi ceux de nos ancêtres qui ont chanté notre vieille Écosse. Et veuillez les entendre !» dit le frère Sib, en revenant aux citations de leur poème favori. « J'aime les chants des bardes. Je me plais à écouter les récits du temps passé. Ils sont pour moi comme le calme du matin et la fraîcheur de la rosée qui humecte les collines. Lorsque le soleil ne jettent plus sur leurs penchants que des rayons alanguis, ajouta le frère Sam, et que le lac est tranquille et bleuâtre au fond du vallon.
Sans doute, les deux oncles auraient indéfiniment continué à s'enivrer des poésies ossianesques si Aristobulus Ursiclo ne les eût brusquement interrompus en disant
« Messieurs,
Avez-vous jamais vu un seul de ces prétendus génies dont vous parlez avec tant d'enthousiasme ?
Non. Et peut-on les voir ? Pas davantage, n'est-ce pas ?
C'est ce qui vous trompe, monsieur. Et je vous plains de ne les avoir jamais aperçus, reprit Miss Campbell, qui n'aurait pas cédé à son contradicteur le cheveu d'un seul de ses lutins. On les voit apparaître dans toutes les hautes terres d'Écosse, se glissant le long des glens abandonnées, s'élevant du fond des ravins, voltigeant à la surface des lacs, s'ébattant dans les eaux paisibles de nos Hébrides, se jouant au milieu des tempêtes que leur jette l'hiver boréal. Et tenez, ce rayon vert que je m'obstine à poursuivre, pourquoi ne serait-ce pas l'écharpe de quelque valkyrie dont la frange traîne dans les eaux de l'horizon ?
Ah non ! S'écria Aristobule sur Cyclos. Pour cela, non !
Et je vais vous dire ce que c'est votre rayon vert.
Ne le dites pas, monsieur, s'écria Miss Campbell. Je ne veux pas le savoir. Mais si, répondit Aristobule sur Cyclos, tout à fait monté pour la discussion.
Je vous défends bien. Je le dirai pourtant, Miss Campbell. Ce dernier rayon que lance le soleil au moment où le bord supérieur de son disque effleure l'horizon, s'il est vert, c'est peut-être parce qu'au moment où il traverse la mince couche d'eau, il s'imprègne de sa couleur. Taisez-vous, monsieur Cyclos. À moins que ce vert ne succède tout naturellement au rouge du disque subitement disparu, mais dont notre œil a conservé l'impression parce qu'en optique, le vert en est la couleur complémentaire.
Ah, monsieur, vos raisonnements physiques, mes raisonnements, Miss Campbell,
sont d'accord avec la nature des choses, répondit Aristobule sur Cyclos. Et précisément, je me propose de publier un mémoire à ce sujet.
Partons, mes oncles,
s'écria Miss Campbell, véritablement irritée.
Monsieur Ursiclos, avec ses explications, finirait par me gâter mon rayon vert.
Olivier Sinclair intervint alors. « Monsieur, dit-il, je pense que votre mémoire à propos du rayon vert sera on ne peut plus curieux. Mais permettez-moi de vous en proposer un autre sur un sujet peut-être plus intéressant encore. »«
Et lequel, monsieur ?» demanda Aristobule sur Cyclos en se dressant sur ses ergots.
« Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur, que quelques savants ont traité scientifiquement cette question si palpitante de l'influence des queues de poissons sur les ondulations de la mer. »
Eh, monsieur, eh bien, monsieur, en voici une autre que je recommande tout particulièrement à vos savantes méditations.
De l'influence des instruments à vent sur la formation des tempêtes.